avez des questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et bonjour Philippe Munier.
Et bonjour Léo, comment ça va de bon matin?
Ça va très bien, de bon matin, de bonne humeur, prêt à jardiner, prêt à avoir tous vos conseils, parce que c'est bien ça le but de cette émission jardin pour celles et ceux qui y arrivent. Et bien Philippe Munier est notre expert, il est avec nous jusqu'à 10h, et puis vous pouvez l'appeler 02 99 67 35 35 avec votre question. Alors questions qui peuvent concerner, eh bien, les plantes, c'est ce que je dis, hein, ça peut aller à la fois de comment composer son compost à, eh bien, aussi entretenir ses plantes en intérieur, faire attention aussi, eh bien, au fait de les rentrer, puisqu'on sait que ça peut être un peu compliqué, des fois, le choc entre la température extérieure et à l'intérieur. Philippe, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, ça va être bien de pouvoir aussi bien redonner des bons conseils, puisque on n'est pas tendre, d'une certaine manière, avec nos plantes quand on les rentre
et
comme
non,
ça.
De temps en temps, on croit en leur faire du bien et on leur fait du mal, et ça, c'est pas cool.
Ah, alors, donc voilà, donc, vous n'hésitez pas. Si jamais vous avez fait un peu de mal à vos plantes, que vous ne savez pas quoi faire, 02 99 67 35 35.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et le premier à être à nos côtés ce matin, c'est Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Léo, bonjour Philippe.
Alors Daniel, dites-nous, quelle est votre question?
Alors, j'ai une question concernant les plants verts, mais tout d'abord je voulais remercier Philippe concernant les conseils qu'il m'a donné pour la plantation d'ail, et également d'avoir relayé mon petit coup de gueule concernant les pesticides. voilà, il a relayé ça à la radio, donc je voulais le remercier. Sinon, c'était concernant les plantes vertes de l'intérieur, je voulais savoir si, comme dans les légumes du jardin, il y avait des associations à éviter ou d'autres qui sont favorables pour les plantes entre elles.
Avec les plantes entre elles à l'intérieur, alors ouais. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble ou est-ce qu'il faut éviter pour certains?
Voilà.
Alors,
voilà.
Philippe.
Alors, la quasi-totalité des plantes d'intérieur sont des plantes de forêt tropicale humide. Donc, oui. Globalement, elles peuvent toutes s'accorder ensemble sans trop de problèmes. Par contre, après, il faut faire attention parce qu'il y en a certaines qui sont des plantes terrestres et puis d'autres qui vont être des plantes épiphytes, comme les orchidées, par exemple, hein, qui sont donc qui, dans la nature, sont en hauteur. Donc, il ne faut surtout pas qu'elles soient enquiquinées par tout un tas de feuilles qui voilà, elles sont en hauteur pour regarder d'en haut les petites plantes d'en bas. Donc, il faut faire attention à les étager exactement comme dans la nature. Mais par contre, elles viennent à peu près toutes du même biome, hein, du même ensemble climatique. Et donc, globalement, ouais. Oui, elles peuvent toutes s'accorder. Mais je vous dis, il faut faire attention à leurs besoins en lumière et en espace. Hein, une orchidée aura toujours besoin de plus d'espace que des fougères, par exemple, qui peuvent vivre les unes tassées un peu les unes sur les autres. D'ailleurs, ça peut être très joli, hein, des cascades de fougères en intérieur. J'ai vu ça une fois il y a quelques années déjà. Mais c'était absolument magnifique, hein. Il y avait aussi cette variété en cascade, c'était extraordinaire. Donc on peut les accorder globalement assez bien. Par contre, il faut faire attention à toutes les plantes dites succulentes qui, elles, sont exactement à l'inverse. Ce sont des plantes de désert, hein. Ce sont des plantes de zones sèches et chaudes. Et donc là, effectivement, il faut les mettre à la lumière et à qu'elles aient moins d'humidité que les autres. Donc il faut créer un coin spécial succulente et puis un coin spécial forêt tropicale.
Voilà, un coin.
D'accord. Et après, on se retrouve plus dans la maison, on croit qu'on est dans
et puis en plus avec ces plantes on va voyager, hein. C'est ça qui est sympa,
c'est ça qui est super bien, ouais.
Voilà donc bien. Daniel,
eh ben, je vous remercie.
Et là on s'aperçoit que les plantes sont beaucoup plus sympas que les hommes, hein, parce que vous mettez des plantes qui viennent de tous les continents, vous les mettez ensemble et elles s'accordent sans problème.
Il n'y a aucun souci, ouais, ça pour vivre ensemble dans ces cas-là. Voilà donc Daniel, on vous souhaite une très belle journée.
Merci,
au revoir. Gisèle est à nos côtés, bonjour Gisèle.
Oui bonjour, je voudrais savoir comment tailler mon aralia.
Votre aralia. Alors moi j'ai une question avant, Philippe, qu'est-ce qu'un aralia ou une aralia, je ne sais pas.
On dit un aralia. Alors l'aralia c'est un nom botanique pour une plante qui s'appelle Fatsia japonica. Donc c'est une plante qui à la base est cultivée, ben, là encore, t'es en plante d'intérieur, mais en fait en Bretagne on peut tout à fait la mettre dehors.
D'accord.
Et dehors, ça fait des petits.
C'est un arbuste, c'est dehors justement.
Voilà, c'est un arbuste absolument, mais on peut aussi l'avoir à l'intérieur. C'est un arbuste de la même famille que le lierre.
Oui.
Qui a l'avantage, comme le lierre, de fleurir en fin de saison, donc de procurer du pollen très, très intéressant et du nectar intéressant pour les abeilles. Mmh. Et donc, si on le laisse faire, normalement, en ce moment, il est en train de préparer ses fruits. Et les fruits, comme les fruits du lierre, au printemps, pourront donner à manger aux oiseaux. Donc, la taille de l'aralia, de préférence, c'est zéro taille, hein, si on peut. Par contre, c'est vrai que quand il se plaît, c'est une plante qui aime les terres fraîches, les terres, donc la mi-ombre, même voire une ombre assez puissante. Et quand il se plaît, et puis un peu d'humidité, en ce moment, il a ce qu'il faut. Et quand il se plaît, il peut devenir assez imposant. Donc, mm-hmm. dans ce cas-là, on va essayer de le diminuer tout doucement parce qu'on est vraiment à la limite entre une plante vivace et un arbuste. Et c'est une plante qui n'aime pas trop les tailles trop sévères. Oui. Alors, tout dépend comment il fait. Souvent, il repart sur plusieurs tiges. Donc, dans ce cas-là, si on veut le diminuer, eh bien, on enlève une ou deux tiges à ras du sol. Et puis, ces tiges-là, on peut essayer de les bouturer parce qu'en général, ça se bouture pas mal. Donc du coup, on peut multiplier le massif d'aralia. Ça peut être sympa en association avec d'autres plantes d'ombre, fraîches. Et, voilà. Mais c'est pas vraiment une plante qu'on taille beaucoup. Donc, il faut faire attention. C'est à manipuler avec précaution, le sécateur-là.
D'accord. Et il n'y a pas de période particulière pour le tailler, Philippe,
Alors, moi, je conseillerais plutôt, si on taille l'aralia, de le tailler plutôt tardivement, c'est-à-dire aux alentours de fin mars, début avril, de manière à ce que laisser le temps aux oiseaux de manger les fruits, hein, parce que c'est intéressant pour eux et que les oiseaux, on sait qu'ils diminuent. Hein. Alors, l'autre jour, il y a encore 6 mois, on disait on a perdu 15% des oiseaux. C'est pas vrai. Maintenant, on est arrivé à 37-38%. Mmh. Donc, vous voyez, la diminution d'oiseaux dans l'espace aérien breton est en train de se casser la figure. Tout ce qu'on peut faire pour les aider, il faut le faire. Donc, on garde les baies de l'aralia si elles en ont. On les garde jusqu'à temps qu'elles aient tout bouffé. Et après, on coupe la hampe florale, ce qui a porté ces petits fruits. Ça, on le coupe. Et puis, éventuellement, s'il y a 2-3 tiges qui gênent un petit peu, on les coupe et on les donne à la voisine pour qu'elle fasse des boutures et qu'elle ait aussi des aralias.
Et puis, ils en profitent, elle aussi. Voilà donc, Gisèle, on vous souhaite une très belle journée à Matignon. À bientôt. Merci, au revoir. Nous avons Jacqueline qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour Jacqueline.
Bonjour à tous les deux.
Alors,
et aux auditeurs.
On vous écoute, allez-y, posez votre question.
Effectivement, on a acheté un citronnier qu'on a ramené de Toulouse au mois d'avril, qui m'a mis, au moins 12 ou 13 citrons.
Oui.
Donc apparemment, il se plaît. Je l'ai rentré. Et là, dans la véranda, et il est en train de mettre des fleurs. Donc je voulais savoir si c'était normal.
Si c'était normal qu'il fasse des fleurs, ce citronnier.
Bah oui, mois de décembre, novembre.
Alors en fait, le citronnier fait partie des rares arbres. Il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a une petite dizaine en tout. Donc d'arbres qui sont capables d'avoir en même temps des fleurs, des jeunes fruits, des fruits un petit peu plus vieux et des fruits mûrs. Donc il est capable d'avoir en même temps toute la panoplie, si je puis dire, de la fleur jusqu'au fruit mûr. Donc, c'est le gros intérêt du citronnier, c'est qu'il y a de la fleur et il y a du fruit en même temps, c'est extraordinaire. Donc, ça prouve que votre citronnier, il se plaît bien s'il fleurit, et puis ça prouve aussi que vous avez pris une bonne variété qui associe tout ça en même temps. Donc, bichonnez-le, alors faites attention, il faut lui créer une petite bulle d'humidité autour de lui, donc vous pulvérisez une fois par jour, une fois tous les deux jours, tout dépend, oui. Il faut avoir un petit hygromètre dans la pièce pour savoir. Et puis, vous faites attention à ce qu'il ne manque pas d'arrosage, parce que les citrons
ont horreur de trop. Oui, je l'arrose à peu près deux fois dans la semaine. Je touche la motte de terre. Si je vois que ça commence à sécher, je mets un peu d'eau.
Très bien, vous avez raison.
Et je le pulvérise.
Très bien, c'est super. Et dans ces conditions-là, les petits fruits, les petites fleurs vont devenir des petits fruits, puis des gros fruits. Et pendant ce temps-là, ils repartiront en fleurs ailleurs. C'est ça qui est fabuleux chez le citronnier.
Jacqueline, c'est un citronnier des quatre saisons, c'est ça?
Oui, c'est un citronnier des quatre saisons.
Okay.
Et donc, il est dans la véranda. On a mis un voile sur la vitre de la véranda pour qu'il n'ait pas trop le soleil quand il y en a.
Très bien. Oui, c'est vrai que cette année...
oui, mais bon, on a mis quand même un voile, puisque...
Okay. Ouais, vous avez raison.
Voilà. J'ai l'impression que vous avez déjà tous les bons gestes, hein, Jacqueline.
Oui, mais ce qui m'inquiétait, c'était de voir ces fleurs et de savoir comment elles allaient pouvoir être pollinisées, comment, parce que de ce fait-là, comme il est à l'intérieur, il n'y a pas de...
Alors, elles sont auto-fertiles, donc elles se fertilisent toutes seules comme des grandes.
Ah, je ne savais pas, qui me manquait comme info.
Donc, pas de souci, pas de problème, pas normalement, de ça devrait être bien, vous allez avoir des fleurs et des fruits, c'est bien parti.
Ah oui, puis là, il m'en donne plein, il y en a encore deux de mûres, et puis il y en a, je ne sais pas, moins une dizaine.
Profitez-en, en tout cas, Jacqueline.
Oui.
Merci à vous d'être venue.
Encore.
À bientôt, merci, au revoir. On va continuer de découvrir vos questions que vous posez ce matin à Philippe Munier. Je vous rappelle le numéro de téléphone 02 99 67 35 35. Voici Avicii sur France Bleu Armorique. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Me by surprise, wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing ray. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Avicii, Addicted to You, à 9h22 sur France Bleu Armorique.
France Bleu, partenaire de Mask Singer, le phénomène mondial présenté par Camille Combal sur TF1. Des célébrités masquées sous des costumes spectaculaires s'affrontent en chantant les plus grands tubes. Les masques ont commencé à tomber.
Le jeu est dingue.
Vous aussi, avec Alessandra Sublet, Angoun, Jarry et Kev Adams, suivez les nouveaux indices et menez l'enquête.
Moi, je connais pas cette voix.
Moi, je la connais.
Mask Singer, vendredi 29 novembre sur TF1 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Si vous n'avez pas encore le numéro de téléphone pour appeler, eh bien pour poser votre question, c'est le suivant, 02 99 67 35 35. Philippe Munier, notre expert, répond à vos questions concernant le jardin. Sylviane est avec nous. Bonjour Sylviane.
Bonjour.
Alors Sylviane, va parler engrais, il me semble, c'est bien
oui.
ça ?
Oui. Je voudrais savoir si on doit mettre de l'engrais aux plantes vertes d'intérieur, parce que je n'en mets jamais.
D'accord.
Et je trouve qu'elles sont un peu tristounettes.
Quelle plante verte en particulier, Sylviane ?
Bon, j'ai un petit ficus, mais qui fait 30 cm, un avocat que j'ai fait pousser, un pied d'éléphant, une fougère. Mmh. Ce sont des petites plantes hein, qui font pas plus de 30 cm.
D'accord. Alors, doit-on mettre de l'engrais ou pas, Philippe ?
Alors, oui, normalement, de manière générale, oui. Alors, il faut faire attention, pas n'importe quel engrais, pas n'importe quoi.
Oui, voilà, c'est pour ça que je vous appelle.
Voilà. Donc, il faut bien regarder dans les jardineries, vous avez toujours donc des engrais plantes à fleurs, des engrais fruitiers, des engrais fraises, tomates, n'importe quoi. Bon, bref, donc il faut vraiment choisir. D'une part, des engrais organiques, et c'est marqué, et de plus en plus de jardineries ont des belles gammes d'engrais organiques, parce que les engrais organiques améliorent le sol, la terre, le support de la plante, alors que les engrais chimiques détruisent le sol. Donc, on prend des engrais organiques, et après, on prend engrais organiques plantes vertes. Si dans la série de toutes vos plantes, vous en avez une qui fait des fleurs, eh bien, il faut prendre engrais organiques plantes d'intérieur, qui en général sont marquées plantes vertes et plantes à fleurs. Hein, parce qu'à chaque fois, la répartition entre les trois éléments indispensables aux plantes, à savoir l'azote, le phosphore et la potasse, est différente. Si c'est que des plantes vertes, il va y avoir beaucoup d'azote, peu de phosphore, peu de potasse. Si c'est plutôt une plante à fleurs, il y aura un peu plus de phosphore, un peu plus de potasse, etc. Et si c'est pour faire des fruits, il y aura moins d'azote et plus de phosphore et de potasse. Donc c'est vraiment là-dessus que ça joue. Donc il ne faut pas se tromper parce que mal nourrie, la plante ne sera pas belle. Donc il faut vraiment prendre engrais organique plantes d'intérieur, et en général vous avez la différence entre celles qui fleurissent et celles qui font que des feuilles vertes qui est indiquée sur la boîte. Donc ça c'est la première chose, donc bien choisir l'engrais. Et la deuxième chose, au niveau de la quantité, vous mettez la moitié de ce qui vous est proposé comme mélange, comme quantité, parce que la quantité qu'on vous met sur les emballages, c'est la quantité maximum autorisée. Or la quantité optimale n'est pas la même chose que la quantité maximale. Donc la quantité optimale, elle est très souvent aux alentours de la moitié de la dose qui est marquée sur la boîte. C'est normal, ils sont là pour vendre, donc ils essayent d'en vendre un peu plus. Et puis la troisième chose, l'engrais, on n'en apporte que pendant la période de végétation, c'est-à-dire entre mars et octobre. Donc maintenant, ce n'est plus la peine de le faire, sauf pour des arbres, par exemple, comme les citronniers, où on en apporte très 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 peu, mais parce qu'ils continuent et à fleurir et à fructifier en même temps, donc il faut continuer à les nourrir. Mais on diminue les doses, si on met la moitié dose, comme je le dis, en plein été, pendant l'hiver, on va descendre, on va être à quart dose, voire même encore un petit peu en dessous, mais il faut nous donner un petit peu juste pour que la plante puisse se sustenter en attendant le retour de la belle saison.
D'accord, et voilà, Sylviane.
Merci.
Écoutez,
merci beaucoup.
Très belle journée à vous, à bientôt. Merci, au revoir. On continue avec d'autres questions, notamment celle de Marie Bernadette qui est avec nous. Bonjour Marie Bernadette.
Bonjour messieurs.
Alors,
voilà ma question. J'ai de la mousse sur mes pavés, sur l'enrobé, sur les dalles, etc. Et je voudrais savoir quel mélange écolo, bien sûr, je peux employer à l'arrosoir ou au pulvérisateur, à quelle dose et à quel moment.
Pour enlever cette mousse,
oui,
peut-être
pour
quelle solution.
Pour faciliter aussi l'enlèvement, parce qu'après, il faudra peut-être la gratter un peu.
Tout à fait. Alors, Philippe, quel conseil avez-vous à apporter?
Ça va plutôt être dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va falloir apporter de l'huile de coude, mais ça, en général, on en trouve assez facilement. Donc, il va falloir effectivement gratter, enlever, et après, lorsque la mousse s'installe, c'est parce que le support est acide. Et ça tombe bien, en Bretagne, les terres sont acides, donc que le support soit acide, c'est pas idiot. Par contre, ce qu'il faut, c'est pour les empêcher de revenir, il faut casser cette acidité. Et donc, une fois que vous avez bien gratté et brossé la mousse, vous pouvez appliquer par pulvérisation ou même peut-être par brossage des cristaux de soude dilués dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède, de manière à... donc ça, la soude, c'est l'inverse de l'acide, hein, donc ça va changer le pH et donc la mousse aura beaucoup de mal à revenir. Mais par contre, évidemment, avec les pluies qu'on a régulièrement, c'est balayé, c'est nettoyé. Donc il faudra revenir, on va dire, une fois tous les 10 jours, pendant l'hiver en tout cas, sur ces zones-là, avec un petit coup de brossage au cristaux de soude. Hein, et comme ça, ça permet d'empêcher aux mousses de revenir et ça vous permet d'avoir votre tour de maison qui soit correct.
Voilà. Bon, Marie-Bernadette, vous avez de l'huile de coude, je présume.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Je vous remercie. Voilà. Alors, je vais suivre vos conseils et puis voilà, ce sera un petit peu plus joli autour de ma maison.
Voilà, n'hésitez pas à appliquer cela. On vous souhaite une très belle journée. À
et
bientôt.
Vous aussi, merci.
Au revoir.
Nous merci. Avons... messieurs. Merci pour tout ce que vous faites pour les jardiniers. Et voilà.
Bah écoutez.
À bientôt.
Voilà. Merci. Nous avons Joël qui est avec nous également. Bonjour Joël.
Bonjour à vous. J'écoute régulièrement votre émission. Là.
Oui.
Voilà, je voulais un renseignement. C'est au sujet de, d'une plante fleur de paradis que j'ai chez moi depuis quelques années. Mmh. Elle a fleuri qu'une fois. J'avais changé de pot et depuis, elle ne fleurait plus. Elle a fait plusieurs pieds.
Oui.
Alors, du coup, je l'ai scindé en des pieds, j'ai remis de la terre, mais là, j'ai fait ça récemment.
D'accord.
Alors, je sais pas de quoi que ça vient, justement.
Oui, pourquoi elle serait comme ça? Pourquoi elle est en train de ne plus fleurir? Enfin, elle a du mal, Philippe. Pourquoi a-t-elle du mal, cette plante?
Ouais. Alors, parce que l'oiseau de paradis, le Strelitzia, ouais. C'est une plante qui est une plante tropicale. Et comme toute plante tropicale, elle a une saison de végétation et une saison de repos. Et très souvent, on ne lui donne pas la saison de repos. Alors comme elle ne peut pas se reposer, eh ben elle peut pas. Elle est trop fatiguée, si je puis dire, pour faire sa fleur. Mmh. Donc elle ne fleurit pas. Elle fait des feuilles, ça n'y a pas de souci. Elle fait même péter les terrines si on la met dans un pot en céramique et qu'on la laisse trop serrée. Hein. Paf, ça éclate sous la pression des racines tellement elle se développe. Par contre, sans fleurs. Donc si on veut qu'elle fasse des fleurs, il faut absolument, comme plein d'autres plantes tropicales, qu'on lui donne une saison sèche, c'est-à-dire une saison pendant laquelle on ne va pas s'occuper d'elle, on va la bouder, on va lui donner très peu à boire. Alors, à chaque fois, je rappelle que très peu à boire, ça ne veut pas dire qu'on la fait crever de soif. Hein. On va lui donner... Il faut qu'elle ait soif, mais pas qu'elle crève de soif. Voilà, la nuance, elle est là. Ça, après, c'est un petit tour de main de jardinier. Donc, ça s'apprend. Hein. Tous les tours de main, ça s'apprend. Après, c'est une question de choix. Le plus facile, quand même, pour faire une saison sèche, c'est de prendre l'été. Hein. Donc, pendant l'été, on la sort, on la met plein cagnard, on l'arrose au minimum. Alors, elle fait un petit peu la tête, elle est un peu moins belle. Mais par contre, dès qu'on va la rentrer au mois de septembre, hein, grosso modo fin septembre, début octobre, comme on en a parlé récemment, à ce moment-là, on va se mettre à se réoccuper d'elle, on va la bichonner, on va lui donner à boire correctement dans ce jus qu'on va lui apporter, dans cette eau de pluie qu'on va lui apporter, on va mettre un très bon engrais organique, plante à fleurs, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, donc un petit peu plus que ce que je disais tout à l'heure, mais c'est juste pour la stimuler, et paf, normalement, on la rentre en début octobre, normalement, pour maintenant, hein, pour Noël en plus, eh bien, elle va partir à fleurir, et là, on va avoir une explosion de fleurs magnifiques, pour peu que la plante soit suffisamment, exposée, pleine lumière, évidemment, hein, c'est vraiment une plante qui aime la lumière, mm-hmm. et ça te permet d'avoir des oiseaux, des fleurs d'oiseaux de paradis pour Noël, et ça c'est plutôt sympa. Ah,
c'est joli en plus, les oiseaux de paradis, c'est vraiment une belle plante, donc on comprend que vous ayez envie d'en avoir, Joël.
Je vous remercie beaucoup de tous ces renseignements, parce que le fait que je l'arrosais trop aussi, toutes les racines étaient repliées au fond du pot.
Oui.
Parce qu'elle se développait beaucoup en racines en fait.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, parce que vous lui donniez à boire tout le temps. Faut vraiment lui couper les vivres entre, on va dire, pendant juillet-août. Quoi. Mm-hmm. Faut vraiment.
Okay.
C'est le plus facile, c'est là où il fait le plus chaud. Donc elle a besoin de chaleur et en plus elle a besoin à un moment donné d'avoir moins à boire et c'est ça qui va stimuler, qui va déclencher son induction florale.
Voilà.
D'accord.
Donc.
D'accord. Je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Hein.
Très bien.
Merci beaucoup.
Très belle journée.
Bonne journée.
Merci
un
à
bon
vous.
Bon dimanche.
De même,
revoir,
dimanche.
Bon dimanche.
Au revoir.
Merci.
Et en ce dimanche, on va continuer de découvrir vos questions, vos interrogations. Vous n'hésitez pas à venir ce matin sur France Bleu Armorique pour discuter avec nous, avec Philippe Munier notamment.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et en attendant, voici le nouveau titre de Marc Lavoine, Morceau d'amour sur France Bleu Armorique.
Je t'écrirai des chansons d'amour avec dedans des mots d'amour. Les chansons qu'on dit d'amour, t'as toujours été pour. Ne t'en va pas.
Morceau d'amour, le nouveau titre de Marc Lavoine à l'instant sur France Bleu Armorique.
Avec Vox, ma chorale interactive, apprenons à chanter ensemble. Enseignants, élèves ou tout simplement intéressés par le chant choral, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour apprendre à chanter seul ou en groupe. Vox est accessible sur lumni.fr, la nouvelle offre éducative. Avec plus de 12 000 vidéos, sons, jeux ludo éducatifs, dossiers, sur lumni.fr, on en apprend tous les jours.
Bonjour, c'est Lambert Wilson et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
Le transporteur 6 points est arrivé. Venez découvrir ses technologies innovantes ainsi que nos autres utilitaires Volkswagen et profitez du crédit bail à 0% avec extension de garantie à 1 euro. Le transporteur 6 points, tellement innovant que même notre réclame semble dépassée.
Crédit bail à 0% sur 36 mois et 90 000 km maximum sur Caddy Van, Caddy Maxi Van, transporteur et crafter immatriculé jusqu'au 31 décembre 2019 si acceptation par Volkswagen Bank. Garantie additionnelle sur la durée du crédit bail en loyer de 1 euro par mois. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr.
France Bleu Armorique. France Bleu. Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et comme chaque dimanche, nous mettons les mains dans la terre, nous prenons soin de nos plantes avec les conseils de Philippe Munier. Nous avons Odile qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour Odile.
Oui, bonjour.
Alors Odile, je vais poser votre question à Philippe.
Oui, je vous appelle, c'est au sujet du compost que je suis allée chercher en déchetterie, voilà un an.
Oui.
Ce sont des déchets de pelouse, de branches, de sapin, tout broyé. Et j'ai fini dans l'année avec des épluchures de légumes, de fruits, quelques journaux comme ça, et tout ça, et du marc de café. Et là, on a voulu le remuer, et on s'est aperçu, enfin, on a trouvé des gros vers blancs.
Des gros vers blancs.
Alors forcément qu'on les a écrasés, forcément au fur et à mesure. Mais moi qui voulais retourner chercher pour faire un autre tas de compost, ça ne me dit rien, parce que pourquoi j'ai ça?
Pourquoi il y a ces vers blancs? Alors, qu'est-ce que c'est que ces vers blancs, en fait, Philippe?
Alors, déjà, je voudrais revenir sur le fait que quand on voit un insecte ou sa larve, qu'on ne le connaît pas, il faut arrêter d'avoir la première réaction qui est de le tuer. Si on ne connaît pas, on ne tue pas. On se pose la question, c'est qui? Et vous avez fait à l'inverse, et c'est dommage, parce que c'est qui? C'est la larve de cétoine. Et la larve de cétoine, c'est quoi? C'est un très beau coléoptère magnifique, et c'est une larve qui, pendant 2 ans, travaille pour vous, gratos, jour et nuit, à transformer votre compost, enfin, donc les éléments que vous mettez dans le compost, pour en faire du vrai compost. Donc c'est un agent de fabrication du compost que vous avez tué avec beaucoup de systématie, d'après ce que vous disiez. Je les ai écrasés au fur et à mesure que je les voyais. Mais oui, mais il ne fallait pas. Il fallait poser la question d'abord.
Planté au printemps, il me mangeait mes racines.
Oui, c'est ça, parce que vous avez vu un ver blanc, et au lieu de dire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment une larve de hanneton, ce que vous avez craint, au lieu de vous poser la question, vous avez écrasé. Après, vous vous êtes posé la question. Ce que j'aimerais, je ne vous en veux pas particulièrement, parce que vous n'êtes pas la seule à faire ça, enfin, ou alors j'en veux à tout le monde en même temps, mais c'est que les gens prennent l'habitude de se dire je connais pas, donc je tue pas. Et quand je connaîtrai, si c'est utile, je garde. Si c'est pas utile, je tue. Mais de marcher dans le bon sens, parce que dans ce sens-là, on est dans le mauvais sens. Et c'est dommage pour votre compost, et puis c'est dommage pour les bestioles, parce qu'en plus, dans le jardin, une larve de cétoine, même si c'est une bestiole qui a sale tendance, on l'appelle aussi le hanneton des roses, parce qu'elle a tendance, au petit matin, on la retrouve en train de se baffrer des tamines de roses. Mais comme elle a bossé pendant 2 ans gratuitement dans le compost, moi je lui laisse avec grand plaisir les étamines de mes roses, elle peut y aller, et puis c'est tellement beau de voir ce gros insecte vert brillant, extraordinaire, c'est vraiment une couleur phénoménale, hein. Et de le voir là, le matin en train de brouter ses étamines, c'est pour moi c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse voir dans le jardin le matin au mois de juin, juillet, hein. C'est souvent à cette période-là qu'on les voit. Donc voilà, maintenant vous savez que c'est pas grave du tout.
Hein? Dites-nous, Odile.
Des gros vers blancs. Hein. Mais faudrait le laisser se reposer, le compost, pendant 2 ans, alors.
Non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que lorsque il y a du bois, les cétoines, ça mange du bois. Et donc vous le disiez, dans les composts de déchetterie, plus dans ce que vous mettez vous, il y a des branches. Donc ils sont là pour manger du bois. Ils sont là pour transformer le bois mort en humus. Donc ce que vous cherchez, en compost. Donc c'est leur boulot. Par contre, ce que vous faites lorsque vous réutilisez votre compost, vous le tamisez, vous fabriquez, vous demandez à votre mari, votre conjoint, votre frise, votre qui vous voulez, ou vous-même, parce que vous avez le droit de bricoler les femmes, hein, c'est pas ça que je dis, de vous faire un joli tamis, hein, donc vous tamisez votre compost, comme ça d'abord c'est ce que vous allez mettre sur le jardin, ça va être tout fin, tout joli d'une part, et d'autre part, tous les vers vous allez les récupérer, vous allez les remettre à bosser pour
dans
vous,
le compost.
En compost.
Directement.
Donc, sinon, c'est les mâles qui vont les bouffer, et là aussi, ça sera contre-productif, parce que vous allez perdre des ouvriers gratuits du compost.
Bon, Odile, vous avez fait une erreur.
Merci beaucoup.
Vous l'aurez compris, mais c'est pas grave. Et ben
vous êtes absoute.
Oui, comme on dit, vous n'êtes pas la seule, je pense, aussi à avoir la peur de ces vers blancs d'un coup. Eh bien non, ce sont nos amis, comme l'a dit Philippe.
Parce que la quantité nous a fait peur.
Ah bah, au contraire, je pense qu'il y en avait beaucoup, peut-être, parce que c'était bien.
C'est génial. Voilà, c'est parce qu'il y avait à manger, et du coup, ils travaillaient vraiment bien pour vous.
Voilà.
Bon, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois.
Odile, vous allez pouvoir rattraper. On vous remettra des bons points la prochaine fois. Voilà, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Est-ce que Joël a fait des bêtises? C'est la suivante à venir poser ces questions. Bonjour Joël.
Bonjour Léo, bonjour Philippe.
Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme question?
Alors je téléphone pour un rosier grimpant dont les feuilles sont mangées et ont des taches brunes. J'ai fait des pulvérisations avec du savon noir, mais le problème demeure toujours. Quel conseil pouvez-vous me donner?
Ça se passe en toute saison ou ça se passe que maintenant?
Ça se passe depuis 2-3 mois.
D'accord. Alors, en fait, pour être très franc, c'est pas grave. Vous êtes sur des plantes qui sont en fin de cycle, avec des feuilles qui sont en train de mourir, parce qu'elles vont tomber, donc elles meurent tout doucement. Les tuyaux qui fournissent la sève s'atrophient tout doucement et se referment tout doucement. C'est ce qui fait que les feuilles changent de couleur, hein, c'est parce qu'elles sont de moins en moins nourries. Donc tous les tanins qui sont à l'intérieur donnent des jolies couleurs en fonction de la plante et en fonction de l'ensoleillement. Donc ces plantes, elles sont en fin de vie, et qu'elles soient mangées et qu'elles soient pas belles, c'est normal. Donc vous inquiétez pas. D'avoir mis une pulvérisation de savon noir, c'est pas idiot du tout, mais ça va pas agir sur ces feuilles là qui sont fichues de toute façon. Hein. Bah, par contre, ça va agir sur le nettoyage des tiges, et empêcher que des éventuelles petites larves puissent s'installer, parce que le savon noir, c'est gras, donc ça englue les petites bestioles, les petites larves, les petits œufs, et ça les asphyxie, donc ça les fait mourir. Comme ça, au printemps, vous aurez un rosier grimpant qui, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de larves dedans. Mais par rapport aux feuilles, à partir de fin septembre, c'est plus la peine d'essayer de les défendre. Elles sont tout doucement en train de mourir, elles vont tomber quoi qu'il arrive, donc s'il y a des bestioles qui viennent les manger, tant mieux pour la biodiversité de votre jardin. De toute façon, vous ne pourrez pas faire revivre une feuille qui est en train de mourir.
Voilà.
D'accord.
Donc, Joël, bon.
Très bien, je vous remercie.
Eh bien, écoutez, bonne journée à vous, Joël. Bon
merci.
Dimanche, à bientôt. Au revoir. Nous avons également Annick qui est avec nous ce matin à Orgères. Bonjour, Annick.
Bonjour, messieurs.
Alors, Annick, je crois que vous avez des questions concernant la pelouse. Expliquez-nous.
La pelouse, oui. Nous avons une pelouse d'une quarantaine d'années. Elle est bien droite et il y a une petite descente pour aller vers la clôture.
Oui.
Et depuis 2 ans, nous avons des espèces de, on dirait, de ségluants. On dirait des algues, je ne sais pas. En tout cas, c'est très, très glissant. On peut pas... On tombe d'abord... Et sur le talus, ça fait pareil maintenant.
Oui.
Alors que c'est plein sud. Et on comprend pas parce qu'on tombe, quoi.
Alors, si
on
peut,
mon petit-fils est tombé, moi je suis tombée hier. J'essaye pourtant de faire attention, il suffit que, voilà.
Alors, donc,
je sais pas ce que faire avec ça.
D'où vient cette sorte de végétation gluante et verte? Qu'est-ce que ce serait, Philippe?
Alors souvent, bon, je pense que c'est pas possible parce que on sait que le glyphosate est interdit depuis le 1er janvier 2019 dans les jardins de particuliers, donc ça peut pas être ça.
Ah non, mais on en a jamais mis.
Mais souvent c'est une espèce d'algue, absolument, c'est une algue, hein, tout à fait, mm-hmm. qui se développe sur des endroits qui ont été traités au glyphosate.
D'accord.
Donc et c'est gluant, c'est glissant, c'est éventuellement dangereux, mais il y a aussi, il n'y a pas que ce côté-là, il y a aussi le côté dont j'ai parlé tout à l'heure pour les mousses, c'est souvent aussi le pH du sol, l'acidité du sol qui est trop bas. Donc il faudrait faire une analyse de pH. On trouve des petits kits en jardinerie qui coûtent pas très cher et qui font des analyses très précises. Vous pouvez donc demander à votre petit-fils de faire ça. Ça l'amusera de voilà. C'est toujours très rigolo à faire. Hein. Moi j'aime bien ça. Il y a des réactions colorées. On a l'impression d'être un savant fou.
Oui.
Bref. Et puis l'avantage, par contre, c'est que ça donne une valeur qui est bonne. Hein. Si on a bien suivi le protocole, la valeur est parfaite. Et donc si on s'aperçoit, par exemple, qu'on a un pH en surface aux alentours de 5, eh ben c'est beaucoup trop acide pour le gazon. Le gazon ne peut pas vivre là-dedans. Donc, lui, il meurt, ses racines meurent, et sur la mort de votre gazon, eh bien, se développe cette algue, parce que ça doit être à l'ombre aussi, un petit peu à l'ombre, et que ça doit être un petit peu frais. Et donc, elle se développe et elle devient... Bah,
c'est drôle, parce qu'au nord, on n'en a pas du tout, et c'est au sud.
Ah oui, c'est rigolo, c'est aussi.
C'est ça qui est assez marrant. Mmh. Et puis surtout, moi, ce que je trouve marrant, c'est de trouver cette sorte d'algue à orgère, quand même, Philippe.
Oui,
c'est drôlement dangereux. J'ai fait venir mon voisin pour lui montrer, il ne revenait pas. Il dit, mais comment ça se fait? Pour eux, ils n'en ont pas, mais nous, on est en lotissement, et je ne comprends pas, parce que nous, on n'a jamais mis de produit, on est toujours... Et puis ça m'embête, quoi.
Ça vous embête, d'abord.
Et bien, du coup, vous allez mettre un tout petit peu de produit, mais ce n'est pas un produit toxique pour le jardin, au contraire. Vous allez acheter en jardinerie, vous allez dans le rayon gazon, ça tombe bien vu que c'est sur votre gazon, et vous prenez du carbonate de chaux. Alors, vous prenez un petit sac, si c'est des petites surfaces, hein, faut pas prendre un gros sac pour une petite surface, parce qu'il faut surtout bien respecter la dose. Et comme je le disais tout à l'heure pour les engrais, là, c'est à peu près pareil. La dose, c'est grosso modo la moitié de ce qu'on vous dit sur le sac. Hein. Bon.
D'accord. Donc,
et là, vous en mettez, alors pas tout l'hiver, hein, on n'en met qu'une fois maintenant, et en moyenne c'est une poignée par mètre carré, en moyenne, mais vous regardez sur le sac, pas du côté où il y a la belle photo, de l'autre côté, il y a un tableau, on vous explique tout ce qu'il faut, les quantités à mettre, etc. Donc, mais avant de faire ça, vous achetez un kit pour faire analyser le pH de votre sol, parce que pour savoir quelle quantité vous devez mettre, il faut d'abord connaître le pH du sol.
Ça fait 2 ans que nous avons ça, hein. C'est la deuxième année.
Mmh. Bon.
Avant, ça
et je pense que c'est un petit problème d'acidité.
Oui.
Donc avec le, d'une part, d'abord faire le pH, vous aurez le niveau d'acidité de votre sol, mmh. et après, avec le sac, c'est marqué dessus, mon sol est entre tel pH et tel pH, je dois mettre telle quantité. Voilà.
Voilà. Bon, Annick, on vous invite à faire cela, et puis vous n'hésitez pas un peu plus tard, dans quelques semaines, à nous rappeler pour nous dire si ça a été résolu ou pas. Très belle journée à vous. Au revoir. Ce dimanche, on continue de le passer ensemble avec Philippe Munier qui répond encore à vos questions d'ici quelques instants.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et voici Clara Luciani avec son nouveau titre Nu sur France Bleu Armorique.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Celle dont j'ai l'air.
Le titre de Clara Luciani, nu à 9h52 sur France Bleu Armorique.
Bleu présente la compilation événement Talents France Bleu 2019 volume 2.
Si jamais je m'en
vos artistes préférés réunis sur un triple CD avec Gims, M Pokora, Christophe Maé, Slimane et Vita, Trois Cafés Gourmands, Jean-Louis Aubert, Florent Pagny, Angèle et bien d'autres. Compilation Talents France Bleu 2019 France Bleu. Le volume 2 disponible en triple CD. Alors un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez sûrement en savoir plus. Alors je vous dirai que c'est 3 ans de contrat d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures récentes certifiées BMW Premium Sélection. Et là, je comprendrai votre envie d'aller très vite en concession BMW, car les occasions éphémères BMW, c'est maintenant et jusqu'au 15 décembre seulement.
Offre valable pour toute commande d'une BMW d'occasion dans les concessions participantes jusqu'au 15 décembre. LOA avec droit légal de rétractation. Détails sur bmw.fr.
Bonjour, c'est Lambert Wilson et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et encore pendant quelques minutes, accueillons tout de suite Madeleine qui est avec nous sur France Bleu Armorique. Bonjour Madeleine.
Bonjour monsieur, oui, j'ai deux poireaux très énormes, dont le blanc a des filets de rouille. Et j'ai même trouvé un petit ver blanc dans ces poireaux-là. Que faire?
Que faire avec ces poireaux?
Alors... Quand c'est que à ce niveau-là, ça va, vous avez de la chance, parce que il y en a d'autres qui ont le blanc du poireau qui est tellement dévoré par ces petits vers blancs que le poireau est complètement immangeable. Donc oui. C'est cette petite bestiole, ce petit vers blanc, c'est la larve, l'asticot de la mineuse du poireau, qui est une mouche qui vient pondre ses œufs sur les poireaux aux alentours de, on va dire, à partir du mois d'août, septembre, octobre. Grosso modo. Et les petits asticots, qu'est-ce qu'ils font? Comme tous les asticots, ils cassent la croûte. Et la croûte, malheureusement, c'est le blanc du poireau, ce qui fait qu'ils en font une espèce de tissu complètement spongieux et puant, parce que le poireau, quand ça se dégrade, ça sent mauvais. Mmh. Et on peut avoir toute sa production de poireaux de fichés en l'air à cause de ça. Donc, pour empêcher ça, la seule solution, vu que c'est une mouche qui vient pondre, eh bien, dès qu'on plante les poireaux de fin juin, début juillet, on met un filet anti-insecte au-dessus et à partir de ce moment-là, on est tranquille. Après, une fois tous les 10-15 jours, on n'oublie pas d'ouvrir, de passer un petit coup de binette, de buter les poireaux comme d'habitude, mais on referme très très vite avant que des mouches ne puissent venir pondre.
Ah oui.
Et comme ça, on est tranquille. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas de faire une rotation de 3 ans parce que s'il y a une mouche qui est venue, elle peut rester pendant 3 ans dans le sol. Donc il faut faire tourner, et il faut une rotation de 3 ans pour les poireaux de manière à être tranquille, pour que les carottes, pareil d'ailleurs.
J'ai coupé les feuilles, est-ce que c'est une raison, une bonne idée ou pas? J'ai coupé les feuilles par 2 fois dans l'année, et j'ai pulvérisé un petit peu avec de l'eau de Javel diluée.
Oh là 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 là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Madeleine?
Ah, ah, ça, je tente tout.
Ah oui, mais ça, je pense qu'il ne faut pas tenter.
Ça sert à rien de bousiller votre sol, parce que l'eau de Javel, ça bousille le sol, donc du coup, poireau...
Mais très dilué.
Non, même très dilué, ça bousille le sol quand même. Et puis en plus, ça vous bousille les poumons, donc c'est pas une bonne idée non plus. Donc l'eau de Javel, éventuellement, si vous en mettez à la cuisine, enfin dans la maison, bon déjà, c'est pas une bonne idée, mais c'est votre problème. Mais dans le jardin, non, c'est à oublier dans le jardin. Ouais. Hein. C'est comme l'huile de vidange, dans le jardin, on oublie. Hein. On le met sur la voiture, mais pas dans l'huile de vidange, dans le jardin. Donc voilà, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Autrefois, effectivement, je me rappelle quand j'ai appris à planter des poireaux, on les trempait dans l'eau de Javel pour empêcher la teigne teigne soi-disant, sauf que ça n'empêche pas la teigne. Donc c'est vraiment des trucs de grand-mère qui ne marchent pas. Il y en a plein, hein, des trucs de grand-mère qui marchent, mais il y a plein des trucs de grand-mère qui ne marchent pas. Celui-ci oui. fait partie des trucs de grand-mère qui ne marchent pas. Donc l'eau de Javel, elle reste à la maison, et le meilleur endroit pour moi pour l'eau de Javel, c'est chez le marchand, hein, parce que même à la maison, elle fait des gros dégâts. Donc la seule solution que vous ayez quand il y a de la mouche, c'est de récolter vos poireaux, de les congeler pour éviter que les asticots continuent à faire des galeries à l'intérieur et vous les fichez en l'air complètement pendant l'hiver. Et la seule manière de ne plus en avoir, c'est de respecter la rotation des cultures, donc on ne revient pas au même endroit pendant 3 ans, et de mettre un filet anti-insectes pour empêcher la mouche de venir pondre. Et là, vous serez tranquille et vous n'aurez pas à mettre des choses terribles dans votre jardin.
Ne dites pas ça parce que à Philippe, hein, Madeleine, ne dites pas des choses comme ça parce que c'est capable de lui faire un AVC ou un truc dans le genre. Mais c'est vrai que non, il faut éviter.
Non, pas tout de suite pour l'instant.
Quand même, on va quand même éviter de vous faire une crise cardiaque, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais évitez cela. Bon, voilà, Madeleine, appliquez donc les conseils qu'on vous a donnés. Et puis, on vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. On va terminer ce rendez-vous jardin avec Michel, rapidement. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Alors, je vous laisse très rapidement poser votre question à Philippe.
Oui, alors, nous avons un magnifique oranger du Mexique.
Oui.
Et on ne devrait pas s'en plaindre, mais il fleurit tout le temps.
Il n'a
que de très brèves interruptions de fleurissement, mais il faut bien le tailler à un moment. Mm-hmm. Alors, à quel moment faut-il le faire?
Quand et comment tailler cet oranger? Alors, dites-nous, Philippe, rapidement.
Alors, c'est très facile. L'oranger du Mexique, donc, il fleurit 2 fois dans l'année, même si des fois, il fleurit 2 fois longtemps. Donc, il y a une première fois au printemps, d'accord? Donc, dès qu'on arrive au début d'été, en général, vers le 15 juillet, il a un petit coup de mou. Donc, à ce moment-là, on taille, on enlève tout le bois qui a fleuri, pas plus, ça suffit, hein, donc c'est une taille légère. Puis donc il va redémarrer à fleurir, ça va l'inciter à redémarrer un fleurissement qui en général démarre fin août et qui peut durer jusqu'à presque maintenant. Hein. Moi j'ai encore des fleurs dans mes orangers du Mexique. Et là on va attendre tranquillement le mois de mars, donc la fin de l'hiver, pour faire une taille. Là aussi on va enlever tout ce qui a fleuri, mais on va éventuellement le rééquilibrer parce que des fois il y a des branches un petit peu fofolles, sachant que comme c'est un persistant, faut toujours garder un tiers sève, donc on ne coupe jamais sur une branche complètement. D'accord. On laisse toujours un tiers sève, une feuille, pour que ça puisse redémarrer. Et dans ces conditions-là, il sera encore plus beau, il sera beaucoup plus dense et il fleurira 2 fois plus.
Et encore, on pourra encore plus en profiter. Voilà donc, Michel, le conseil de Philippe ce matin. On vous souhaite un très très bon dimanche. Philippe, on est pressé par le temps, hein, comme à chaque fois, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de monde à intervenir. On se retrouve bien sûr dimanche prochain à partir de 9h pour reparler jardin encore une fois, avec grand plaisir.
Je vais juste donner
rapidement.
Juste le titre, je n'irai pas plus loin. Mais voilà, ceux qui aiment et le jardin et la peinture, je vous conseille un très beau bouquin qui est paru aux éditions Ulmer, ça s'appelle Jardin d'artiste, et là on en prend plein les mirettes.
Ah bah
j'en dis pas plus.
Voilà, écoutez, merci pour ce conseil livre encore une fois, Philippe, et puis on vous dit à dimanche prochain.